rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec Clémence Boulouk, l'autrice du Sentiment des crépuscules. J'ai eu la chance d'interviewer en direct Clémence Boulouk, l'autrice du Sentiment des crépuscules, au Salon du Livre du Mans, faite lire grâce à la FRAMA, la Fédération régionale des radios associatives de Maine-Anjou. Deuxième partie de la rencontre.
Et en fait, ce qui est extrêmement émouvant, c'est le fait qu'on assiste à la fin de la vie de Sigmund Freud. Mmh. Et ben, enfin, je savais, parce que je fais partie des lectrices de Freud et de Stefan Zweig, mais on voit des hommes qui sont justement au bord du crépuscule. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en 1938.
Absolument. Et c'est des hommes qui sont... dont le prestige... Enfin, c'était des monstres sacrés, même à l'époque. Il faut se souvenir que Zweig était extrêmement lu. Et d'ailleurs, qu'il en était méprisé par le monde littéraire qui le jalousait. Freud a été vraiment accueilli en Angleterre. Parce qu'il a dû quitter l'Autriche nazie. Ça fait la une quand même du Times de Londres quand il est arrivé. Donc c'est des hommes qui sont à la fois extraordinairement célébrés et qui sont dans une détresse totale parce que ce sont des réfugiés, c'est des gens qui ont quitté Vienne, tombés depuis le mars 38 dans les mains des nazis et qui ont vu. Donc ça les humanise aussi d'être des esprits qui ont été capables de faire un diagnostic du monde. Mais qui n'ont pas été capables de sauver ce monde de ses propres démons et de l'abîme. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est comme Freud, il a un cancer de la mâchoire, il termine sa vie en exil alors qu'il a donné à Vienne ses lettres de noblesse. Il y a quelque chose d'absolument tragique. Il dépend de sa fille parce qu'il a cette prothèse. Enfin, c'est quelqu'un qui est en souffrance psychologique, même physique. Et qui mourra dans 14 mois. Zweig est quelqu'un qui avait une foi absolue en l'Europe, qui était un humaniste et qui mettra fin à ses jours en 1942. Donc on est à 3 ans et 9 mois de la fin de ses jours. Donc il y a quelque chose qui est comme ça, cette détresse et cette interrogation sur qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que la pensée peut faire quand le mal défère. J'ai écrit ce livre en 2023 et évidemment il y a des questions qui font écho. L'histoire ne se répète pas, mais cette façon qu'a eu le monde de tourner le dos aux réfugiés, cette façon qu'a eu l'antisémitisme de ressurgir, de montrer son visage atroce, là où on croyait à Vienne que c'était vraiment un monde de valse viennoise et d'élégance et de victoire de l'esprit, et en fait non.
Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont tous les deux, en fait, on assiste presque pas à une rencontre avec Dali, mais avec leurs interrogations à eux, mm-hmm. Et avec un retour dans le passé. Et mm-hmm. comment, aussi, la question qui se pose, c'est comment l'un et l'autre, comment est-ce que j'ai pu ne pas voir mm-hmm. effectivement ce que vous disiez, ce qui arrive, mais aussi pour moi, c'est-à-dire ne pas être capable d'anticiper parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont partis trop tard.
Oui, ils sont partis trop tard. Et puis cette question est à quel moment, d'abord, à quel moment faut-il partir? Est-ce qu'ils ont été traîtres à leurs propres idéaux en partant? Et puis comment est-ce qu'ils n'ont pas vu, en fait, que ce phénomène nazi, qui a parfois été vraiment mis de côté, comme si c'était impossible que l'Autriche ou l'Allemagne, qui étaient des pays de culture, tombent dans les mains de tellement de haine de vulgarité ou de quelque chose qui était... indécent et en pensant, en espérant qu'en fait d'autres parleraient à leur place, parce qu'en tant que juifs c'était pas eux de défendre leur propre identité, c'était comme en attaquant des minorités en général, en fait on attaque quand même la fabrique, la texture d'une société, et donc Vous dites que c'est à chacun de défendre les plus fragiles et c'est pas à eux de le faire. Et donc ils ont cru que justement quelque chose serait possible et qu'ils seraient capables de se tirer hors de l'abîme. Mais en fait, non. Donc il y a une véritable interrogation sur quelle est la part de responsabilité ou de culpabilité, en fait, même des êtres les plus, des esprits les plus extraordinaires.
Il y a aussi deux autres personnages qui sont là, qui sont Anna Freud et Gala, qui sont à la fois aux antipodes et reliés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Qui sont deux beaux personnages qu'on découvre, dont on voudrait presque en savoir plus à la fin.
Merci de les mentionner, parce que c'est vrai qu'il y a les trois géants, mais derrière ces géants, il y a deux femmes qui les ont façonnés ou qui les ont aidés, en fait. Anna, qui est la fille, qui était la dernière fille, celle qui n'aurait pas été désirée, paraît-il, mais qui est devenue indispensable, qui est un peu la garante et la gardienne de l'héritage de la psychanalyse, qui est vraiment celle sur laquelle Freud s'appuie dans ses derniers moments. Et puis il y a Gala, qui, elle, est une femme de poigne, qui était l'ancienne Madame Éluard, qui a rencontré Dali et qui lui a dit « Mon petit, nous ne nous quitterons pas », et qui a compris que Dali avait ce ferment de génie qu'elle pourrait faire fructifier et qui ferait de Dali ce personnage qu'on connaît. Donc il y a quelque chose où toutes deux, en fait, sont celles par qui ils ont pu advenir, leur Freud sur le tard, mais à leur propre destinée. Et c'est vrai que Anna est un personnage qui est extraordinairement touchant. Gala est quand même quelqu'un qui était beaucoup plus complexe. J'essaye de lui trouver des circonstances atténuantes, parce que en écrivant un roman, c'est difficile de ne pas voir que les êtres sont complexes. Donc oui, c'est une femme déclassée, etc., qui a voulu prendre une revanche sur la vie, mais qui fait que elle a vraiment fait de, c'était un peu la jante, et parfois par exemple les surréalistes la détestaient. Et après, donc c'est pas dans le livre parce que chronologiquement ça n'allait pas, mais par exemple Soupeau avait appelé Dali de son anagramme Avida Dollar au lieu de Salvador Dali, parce que c'est vrai que Gala était quelqu'un qui pensait que la vie, comme Salvador Dali, se passait quand même nettement mieux quand on vivait dans des palaces et qu'on mangeait du homard.
Bien, bah écoutez, merci, je vous recommande vivement de lire Le Sentiment des Crépuscules. On en apprend énormément et ça donne envie de lire les auteurs qui sont cités et quand même de regarder les tableaux de Dali aussi.
Merci. Merci beaucoup.
Lecture d'un extrait où nous sommes à l'intérieur de la tête de Sigmund Freud. Avoir tant vécu l'incitait à croire que le passé dicterait un futur sensé, et cette illusion se doublait d'une fierté pour Vienne et d'une tendresse pour ses travers. Cette sorte d'amateurisme, cette façon de vivre à la légère, entre opérette et flirt sur la grande roue du Prater, au contraire de cette maladive précision allemande. Ils avaient un terme, Schlamperei, pour décrire la mollesse du sud, de l'Allemagne et de l'Autriche. Cette incurie serait leur arme secrète, celle qui ferait dérailler les plans et les mécanismes nazis trop méticuleux. Mais c'était compter sans cette rage insoupçonnée, cette haine, cette psychose collective contre les Juifs qui pourtant avaient écrit la grandeur viennoise. Il se souvient de la meute venue détrousser son appartement dès le lendemain de l'Anschluss. Ces prédateurs confondus seulement par la courtoisie de sa femme, qui leur avait ouvert le coffre et les avait invités à s'emparer de son contenu. Ils avaient dit merci. Lorsque la silhouette du professeur s'était dressée dans l'entrée, ils avaient dû voir en lui la statue du commandeur et s'étaient éclipsés en le saluant d'un « Herr Professor », non sans toutefois l'accompagner d'un menaçant « Nous reviendrons ». Une autre meute, presque au même moment, quelques numéros plus bas, au 7 de la Bergasse, avait été moins civile avec son fils aîné, Martin, dans les locaux des éditions de la Société psychanalytique, où le meneur s'amusait avec son colt, menaçant de lui brûler la cervelle sur place ou lui enfonçant le viseur dans le ventre. Mais il ne tirerait pas, ou pas tout de suite. Ces brutes avaient besoin de lui pour ouvrir les tiroirs et les coffres-forts et les guider dans les papiers où ils croyaient trouver des comptes en banque à piller. Dès la prise de pouvoir des nazis, Martin avait anticipé leur perquisition et avait commencé à jeter les documents où apparaissait le nom de tout avocat contre lequel il pourrait se retourner, ainsi que la trace de tout paiement venu de l'étranger, même s'il ne s'agissait que de royalties pour des tractations. Il avait été leur prisonnier pendant un après-midi entier, ne devant sa libération qu'à un imbroglio entre ses gardiens, qui essayaient mutuellement de se dérober les sommes qu'ils saisissaient. Ils avaient fini par régler leurs différends, loin de son regard. Le professeur avait été épargné, mais ce n'était pas un hommage dû aux aînés. Ses aînés, il les condamnait à récurer le pavé avec des brosses à dents, des femmes en nuisette étaient jetées à terre, au milieu de la rue. Les persécutions étaient indiscriminées, riches ou pauvres, jeunes et âgés, les juifs étaient insultés et battus. Alors qu'en Allemagne, les nazis avaient graduellement ajusté leurs nœuds coulants, les juifs viennois avaient été piétinés instantanément sous les yeux de voisins qui arboraient peu de jours auparavant l'insigne proclamant leur fidélité à la République autrichienne. La pelouse du Prater, avec sa grande roue, était devenue un parc d'attractions pour nazis. Lesquels contraignaient des juifs attrapés au hasard à brouter l'herbe ou les faisaient courir en rond jusqu'à les épuiser et les rossaient quand ils s'écroulaient de fatigue. En cas de crise cardiaque, ils n'appelaient pas les secours. Ce n'étaient, après tout, que des bêtes de somme ou des comptes en banque avidés lorsqu'ils tenteraient de sauver leur vie en fuyant la ville. Il lui avait fallu entrevoir l'innommable pour qu'il se résolve à partir, alors qu'il ne lui restait plus temps à vivre et que le départ rognerait sans doute ses jours. Mais il était un patriarche qui se devait de protéger les siens et surtout sa cadette. Ce jour de mars où Anna avait été embarquée et interrogée pendant des heures par la Gestapo avait scellé sa décision.
C'était ma rencontre avec le sentiment des crépuscules de Clémence Boulouk.